Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite une excellente fête des trompettes. Si quelqu'un que vous aimez, avec qui vous vous entendez très bien, avec qui vous passez beaucoup de temps, si cette personne s'absente un certain temps, peut-être votre époux, peut-être votre épouse, vous allez inévitablement anticiper vraiment son retour. Vous allez l'attendre, et peut-être même que vous allez montrer certains signes d'impatience en attendant. Mais quand la personne revient, si c'est un époux ou une épouse, quand la personne revient à la maison, vous serez à ce moment-là comblé par son retour. On dit bien en français, l'espoir fait vivre. Et nous savons que le Christ tiendra sa promesse. C'est le titre de ce sermon, le Christ tiendra sa promesse. Le Christ est venu une première fois et le Christ a promis qu'il allait revenir une deuxième fois. Qu'il allait revenir. Dans Jean chapitre 14 et le verset 1, c'est ce que nous voyons. Dans Jean chapitre 14 et le verset 1, le Christ, avant sa crucifixion, disait à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Et avec tout ce que nous voyons autour de nous maintenant, tout ce qui se passe dans le monde, nous avons besoin de ne pas être troublés. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, parce que le Christ dit toujours la vérité. Nous savons que nous sommes jugés maintenant dans cette vie, et donc le Christ va nous préparer une place en fonction de comment nous nous comportons maintenant. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, donc une promesse de la part de Jésus-Christ, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse formelle qui nous donne l'espoir, c'est la certitude, le Christ l'a dit, c'est la certitude que le Christ va revenir. C'est un réconfort, ça nous rassure et cela nous encourage aussi. Et donc il disait à ses disciples qu'il allait revenir, ils avaient un avenir comme nous, nous avons un avenir. Leur foi et la nôtre peuvent se poser sur des bases solides. Et en attendant, nous voyons à partir du verset 15, en attendant, le Christ a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, en attendant ce retour du Christ, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et bien sûr, cela nous ramène à la fête de la Pentecôte. Verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Une autre promesse de la part du Christ. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Le Christ avait déjà dit à ses disciples que le Fils de l'homme allait venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Il a aussi dit que le signe du Fils de l'homme allait paraître dans le ciel, que toutes les tribus de la terre se lamenteront et qu'elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et dans Jean 14, le Christ fait une promesse, je reviendrai. Le Christ tiendra sa promesse. Plus tard, à l'église dans Apocalypse, quand il parle à l'église de Thyatira, il a dit, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Donc nous voyons à maintes reprises que le Christ parle de son retour. L'église de Sardes aussi, il en parle. L'église de Philadelphie, ça devient plus pressant. Il dit, je viens bientôt. Et à l'église Laodicée, c'est encore plus précis. Le Christ dit, je me tiens à la porte. C'est donc une promesse absolue de la part du Christ. Les quatre dernières fêtes dans le plan de Dieu ont à voir avec ce qui est encore à venir. J'ai traduit une partie de ce que M. Franks a dit dans un à-propos récent. À propos des fêtes, justement, il dit « Les jours saints établissent ce plan chaque année. La Pâque, les jours des pains sans levain, et la Pentecôte concentrent sur les promesses, ceux qui sont appelés et convertis maintenant au cours de cette vie. La fête des trompettes est le quatrième jour saint, est le point de flexion, le point de bascule dans le plan de Dieu. Après la première résurrection des saints et des promesses, qui aura lieu lors du retour du Christ sur cette terre, le centre du salut ira à tous les autres êtres humains. Les sept sceaux, les sept trompettes et les sept derniers fléaux que nous voyons dans Apocalypse représente justement un plan d'ensemble d'événements prophétisés devant se produire avant le retour du Christ et lors de son retour. Dans la Bible, les trompettes étaient employées justement pour signaler des événements importants, comme pour sonner l'alarme en cas de guerre, comme pour annoncer un couronnement, ou pour convoquer le peuple pour qu'il s'assemble. Il y a, avec la fête des trompettes, il y a les deux aspects. Il y a la guerre avec sa cohorte de souffrance, mais nous avons aussi, avec la fête des trompettes, le retour du Christ. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse chapitre 11. Le retour de Christ est la délivrance de tous ces maux que nous connaissons maintenant. Les cinq premiers sceaux représentent la colère de Satan contre le peuple de Dieu et contre l'humanité en général. Le sixième sceau, c'est l'intervention de Dieu. Et le septième sceau représente le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le thème majeur du livre de l'Apocalypse. Et ce septième sceau comprend le jugement de Dieu sur l'humanité, une humanité désobéissante. Ça prend la forme de sept plaies, sept événements terribles. Le but de Dieu, c'est que les gens se repentent, que les gens voient leurs actions, leurs mauvaises actions, et qu'ils se repentent. Mais les hommes, à ce moment-là, vont refuser de se repentir de leur péché et d'accepter Jésus comme roi de la terre. Et de ce fait, il y a sept fléaux, sept coupes d'or, pleine de la colère de Dieu, comme c'est marqué dans la Bible, qui vont s'abattre sur l'humanité après que la septième trompette ait retenti. Évidemment, ces sept derniers fléaux vont provoquer des dégâts supplémentaires énorme parmi les hommes et sur la terre. Et avec ces sept fléaux, ce que la Bible appelle sept fléaux, les derniers, s'accomplira la colère de Dieu. Mais par la même occasion, cette septième trompette, on voit la destruction, on voit l'intervention de Dieu, la colère de Dieu, mais avec cette septième trompette, c'est aussi, quand ça retentit, c'est aussi l'espérance des saints à travers les siècles, puisque le Christ a promis de revenir. Nous voyons bien et nous voyons de plus en plus que l'homme est en train d'échouer. Dieu a donné du temps à l'homme, mais nous voyons aussi les fruits du règne des hommes. La haine, la violence et les guerres. Et l'homme ne connaît pas le chemin de la paix et l'humanité va vers sa fin. C'est bien marqué dans Matthieu chapitre 24 verset 22. Je ne m'y rapporte pas. Matthieu 24 verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, dans un temps très difficile, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. La fête des trompettes, ça a à voir avec le fait que Dieu intervient pour sauver l'homme de lui-même. Le Christ va revenir. Et la fête des trompettes illustre donc ces événements marquants qui signaleront la fin de la domination humaine et l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Comme M. Franks a dit, c'est le point de flexion, le point de bascule dans le plan de Dieu. Tout va basculer. Ce sera la fin du règne des hommes, la fin du règne de Satan, et ce sera remplacé par le règne de Dieu. C'est clairement indiqué dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2 et le verset 44. Dans le temps de ces rois, donc à la fin du système des hommes, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Donc, nous allons du système des hommes au royaume de Dieu. Nous allons du temporaire à ce qui sera éternel. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Son explication est certaine. Le Christ tiendra ses promesses. Nous voyons le pendant de cet événement dans Apocalypse avec la septième trompette. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. C'est un changement de régime époustouflant. C'est un changement de dirigeant. C'est un changement vraiment complet. Et il y aura beaucoup de réjouissance au ciel. Et c'est aussi cet événement, la septième trompette, c'est quand les êtres humains, ou certains êtres humains, les saints, vont être glorifiés. On peut situer les événements qui précèdent la septième trompette. C'est utile pour nous de voir ceci dans son contexte. Parce qu'avant que le Christ puisse revenir, il faut qu'un certain nombre d'événements se produisent. À l'époque il n'y avait pas de livres comme nous les avons maintenant. Il y avait des rouleaux, des parchemins. Et l'Apocalypse dépeint justement un rouleau de parchemin scellé de 7 sceaux qui devaient être décachetés ou ouverts, comme la Bible dit, avant le second événement du Christ. Dans le 5e chapitre du livre d'Apocalypse, un rouleau de parchemin est présenté à Christ, au ciel. Ce papyrus ou ce parchemin scellé de 7 sceaux contient un scénario d'événements qui devait se produire avant et pendant le second événement de Jésus-Christ. Vous vous rappelez que tout au début d'Apocalypse, c'est marqué révélation de Jésus-Christ. Nous voyons dans le chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, que Jésus est le seul à être jugé digne d'ouvrir les sceaux qui vont suivre, de révéler ce que ces sceaux représentent. Et ça continue dans Apocalypse chapitre 6, où nous avons justement les 4, ce qu'on appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui est en parallèle avec Matthieu 24. Le cavalier blanc représente une séduction religieuse. Le cavalier roux, la guerre. Le cavalier noir, la famine. Et le cavalier pâle, les épidémies. Et ces 4 cavaliers vont s'intensifier avec le temps. Apocalypse chapitre 6 et le verset 9 nous décrit le 5e sceau. Apocalypse chapitre 6 et le verset 9. Quand il ouvre le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant jusque quand, Maître saint et véritable, tends-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Nous comprenons bien que la Bible se sert de métaphores parfois pour symboliser des événements passés. C'est le cas d'Abel. Dieu, à un moment donné, il dit à Caïn, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, c'est une métaphore et c'est ici, c'est la même chose dans Apocalypse 6. C'est une métaphore pour décrire ce qui s'est passé. Ce 5e sceau décrit, représente la colère de Satan, colère qui est dirigée en général contre l'humanité et en particulier contre le peuple de Dieu. Dans Matthieu 24, nous voyons la suite des événements. Matthieu chapitre 24 et le verset 21. Matthieu 24 et le verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Une détresse sans précédent. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Au milieu de la nuit, si je puis dire, il y a l'espoir. Les élus de Dieu ont une responsabilité aussi. Nous voyons donc l'importance aux yeux de Dieu. Après la grande tribulation, il y a des signes célestes. C'est le 6e sceau. annonciateur
du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur marquera l'intervention du Dieu juste,
pour établir finalement
son royaume sur la terre,
dans le but d'éliminer l'oppression, la souffrance et le péché dans lequel l'homme
vit maintenant,
de bâtir
un autre monde,
le monde de Dieu où la paix va régner. Bien entendu, Dieu ne souhaite pas détruire l'humanité, mais Dieu va intervenir pour que l'humanité se repente de ses péchés. Ces péchés qui ont provoqué tant de misère depuis la création. Nous arrivons donc au septième sceau, et ce septième sceau comprend sept trompettes. Nous le voyons dans Apocalypse chapitre 8, et ce sceau symbolise le jour du Seigneur. Et ça représente donc le thème dominant ou prédominant du livre d'Apocalypse. Il représente deux choses. Il représente la colère de l'agneau qui est donc déversée sur l'humanité à cause de sa désobéissance aux lois de Dieu. Mais il représente aussi l'autre côté, c'est la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu va intervenir, il y aura le retour de Jésus-Christ sur terre, et Jésus-Christ va établir son royaume. Apocalypse chapitre 8 et le verset 1. Apocalypse chapitre 8 et le verset 1, quand il ouvre le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompette leur fut donnée. Donc, septième sceau qui est divisé en sept trompettes. Nous voyons la suite des événements, par exemple dans le verset 7. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlé. Et Dieu intervient de cette façon-là. Ce sont des punitions, des châtiments de la part de Dieu. Et ça continue dans le chapitre, Apocalypse chapitre 9. Et à un moment donné, lors de la cinquième trompette, le châtiment est si sévère que les hommes chercheront, je cite, que les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Les trois dernières trompettes sont si graves que la Bible les appelle des malheurs. Apocalypse chapitre 9 et le verset 18. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche. La Bible nous révèle aussi la réaction de l'humanité à ses châtiments, à ses afflictions, dans le verset 20, Apocalypse 9 et le verset 20, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. Malgré la sévérité de la douleur, de la souffrance qu'ils vont subir, l'humanité dans son ensemble va refuser de se repentir de ses péchés. L'homme est endurci au péché.
Et l'humanité dans son ensemble va continuer à rejeter Dieu, à refuser d'adorer le Tout-Puissant et de lui obéir.
Évidemment, l'humanité est séduite par Satan. Arrivent ensuite les sept derniers fléaux. Il y a des parallèles jusqu'à un certain point entre les sept derniers fléaux et deux autres événements qui ont déjà eu lieu. D'abord, il y a un parallèle entre les sept derniers fléaux et les fléaux que Dieu a infligés à l'Égypte pour libérer les anciens Israélites de l'esclavage. Il y a des similarités, par exemple, entre ce qui s'est passé en Égypte et le premier fléau, le deuxième fléau, le troisième et le cinquième fléau. Et de la même façon que Pharaon a endurci son cœur contre Dieu et contre son plan, ce sera la même chose pour les gens qui subiront les sept derniers fléaux et qui vont aussi endurcir le cœur contre Dieu. Et nous trouvons dans Apocalypse chapitre 15 qui introduit les sept derniers fléaux, nous trouvons le peuple fidèle de Dieu chantant, entre guillemets, le cantique de Moïse. C'était un hymne composé par Moïse après que Dieu avait déversé les 10 plaies sur les Égyptiens pour délivrer Israël. Et deuxièmement, les sept derniers fléaux d'Apocalypse 15 et Apocalypse 16, qui sont mentionnés dans Apocalypse 15 et Apocalypse 16, ont des similitudes également avec les sept trompettes, mais avec une intensité accrue. Regardons Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 7. Nous voyons d'ici donc la première trompette, le premier son de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé du sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avait vu mourut, le tiers des navires périt. Verset 10. Le troisième ange sonna la trompette, et tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur la source, sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Chaque fois, c'est un tiers. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième, verset 12, le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Et si nous comparons ceci avec Apocalypse chapitre 16, par exemple, et le verset 3, Apocalypse chapitre 16 et le verset 3, le second verset sa coupe dans la mer, elle devint du sang comme celui d'un mort et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Donc, nous passons d'un tiers, avec les châtiments des trompettes, à une totalité ici, dans le verset 3. Verset 4. Le troisième verset sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. C'est donc de nouveau la totalité. Verset 10. Le cinquième verset sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Avec les sept derniers fléaux, donc toutes les eaux, à la fois l'eau des mers et l'eau douce, vont devenir du sang. Toute vie dans la mer va mourir et il y aura encore plus d'obscurité. Ça, c'est le scénario de ce qui va arriver. Mais à travers ce scénario, à travers ces souffrances et châtiments, il y a l'espoir pour le peuple de Dieu. La Bible dit, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, et l'espoir fait vivre. 1 Jean chapitre 3 et le verset 2. 1 Jean chapitre 3 et le verset 2. Bien-aimé, Jean a beaucoup d'amour pour les frères de l'Église. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, aussi notre espoir, notre certitude, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, en lui, au fond de lui, se purifie comme lui-même est pur. Et ça nous rappelle, ça nous ramène, si vous voulez, au pain sans levain, où nous voyons à quel point Dieu veut que nous nous purifions, que nous enlevons le levain de notre vie. Et cet espoir nous permet de supporter les difficultés, d'encaisser parfois et de changer, de se purifier. Il y a une histoire d'espoir dans l'Ancien Testament. Quand Dieu a inspiré le prophète Jérémie à donner des mots d'encouragement aux captifs juifs qui étaient à Babylone à l'époque. Et voici ce qu'il a dit dans Jérémie 29. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ils avaient un avenir, ils avaient une espérance, et nous aussi, nous avons un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, donc cette intimité de nouveau avec Dieu, et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous voyons dans le livre d'Esdras, dans le livre de Néhémie, que ce peuple qui avait été conquis, qui avait été emmené en captivité, que ce peuple, au moment de retour dans son pays, était enfin disposé à écouter Dieu et à rechercher son Dieu. Pour les Juifs à l'époque, il y avait une immense espoir. Et malgré la période très difficile, très sévère que le monde va connaître à l'avenir, il y a aussi à travers ceci des réconforts pour ceux qui craignent Dieu et pour ceux qui font sa volonté. Nous voyons à travers le Nouveau Testament à de nombreuses reprises qu'il est question du retour du Christ. Bien entendu, déjà dans les évangiles, nous voyons aussi au début d'Actes qu'il y a deux anges qui parlent aux disciples lorsque, une fois que le Christ était dérobé à leurs yeux, que le Christ allait venir de la même manière. L'apôtre Paul parle à plusieurs reprises du retour du Christ, nous sommes très familiers avec 1 Corinthiens chapitre 15, il est question de l'avènement du Christ. Il parle aussi dans plusieurs chapitres de 1 Thessaloniciens. Il parle dans Philippiens chapitre 2, verset 20. Il parle à Timothée aussi, de Timothée. Et nous voyons dans Hébreux chapitre 9 et le verset 28, je ne m'y rapporte pas. Hébreux chapitre 9, verset 28, c'est très clair, parlant du Christ, apparaîtra sans péché une seconde fois. C'est rassurant. C'est rassurant par les temps qui courent, avec les événements qui se précipitent. Nous voyons aussi que Jacques en parle, il dit même, Jacques dit même, car l'avènement du Seigneur est proche, Pierre en parle, Jean en parle dans ses épîtres, et dans Tite chapitre 2, verset 13, Tite chapitre 2 et le verset 13, nous lisons, en attendant, c'est notre rôle, en attendant la bienheureuse espérance. Voilà de nouveau le mot espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Apocalypse, bien entendu, en parle beaucoup. Et cette liste, cette petite liste que je viens de vous donner, n'est pas exhaustive. Il y a de nombreuses références dans le Nouveau Testament au retour du Christ, le deuxième événement. Et bien entendu, l'Ancien Testament aussi en parle. Le peuple de Dieu vit de l'espoir parce que le Christ a promis de revenir. Luc chapitre 21 et le verset 25. Luc 21, qui est en parallèle avec Matthieu 24. Luc 21, le verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et au milieu donc de toutes ces situations extrêmement difficiles pour l'humanité, verset 27, « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Nous savons, nous avons le privilège de savoir qu'il y aura une fin, et une fin heureuse. Verset 28. Et ensuite, il y a une directive qui est donnée aux saints, de la part du Christ, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Quand ces événements commenceront à arriver. La version Darby utilise le mot rédemption à la place de délivrance dans le second. Et quand ces choses vont commencer à arriver, logiquement, notre espoir devrait grandir. Chouraki dit, elle est proche, votre rédemption. À ce moment-là, nous ne sommes pas loin du but, de notre libération. Et lueur traduit ce mot par libération effectuée par paiement d'une rançon. La rançon a été payée. Romains chapitre 8 et le verset 22. Romains 8. Et le verset 22, « Or nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Le verset 23 précise que c'est pas seulement la création qui souffre, verset 23, nous aussi, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les promesses de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant, qu'est-ce que nous faisons? En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous vivons avec cette espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et cette espérance nous aide à endurer. Nous attendons le royaume et nous persévérons dans cette attente. Et l'espoir nous aide à persévérer. La Bible précise que le Christ enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Nous sommes familiers avec 1 Thessaloniciens chapitre 4. On va le regarder encore une fois. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Nous ne sommes pas dans l'ignorance. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous avons cette espérance. Le Christ a dit dans Apocalypse, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ça symbolise son pouvoir et son autorité sur la mort et l'au-delà. Verset, je reviens à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et c'est notre cas, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, chrétiens, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Et ensuite, l'apôtre Paul explique en toute lettre ce qui va se passer. Verset 16, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, la septième trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et puis le verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Se consoler, être réconforté, se réconforter. Shura qui dit, réconfortez-vous l'un l'autre par ces paroles. Le second 21, encouragez-vous. Et puis le semeur, encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Nous savons que le Christ va revenir et le Christ revient aussi pour juger. Nous voyons ça dans Apocalypse chapitre 11 et le verset 18. Apocalypse chapitre 11 et le verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Un jugement de la part de Dieu. Et nous voyons aussi, je m'y rapporte pas non plus, dans Psaume 98, verset 9, nous voyons que ça a déjà été prophétisé dans l'Ancien Testament, Psaume 98, verset 9, où nous lisons « Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. » Mais il vient pour juger. Il vient pour établir son royaume. Et tout ça devrait faire naître au-dedans de nous l'espoir. Le retour de Jésus-Christ va être un moment de très grande réjouissance, qui est mentionné dans Apocalypse chapitre 19 et le verset 5. Apocalypse chapitre 19 et le verset 5. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et nous voyons dans le verset 9, et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux. Ça va être un bonheur intense. La fin de cette vie physique et le fait d'être un être spirituel dans la famille de Dieu. Il en sera fini de nos luttes, de nos échecs, de nos déceptions, de nos combats et de nos difficultés. Et si nous sommes vivants au moment du retour de Christ, notre course sera terminée. Nous aurons franchi la ligne d'arrivée. Un moment de joie inoubliable. Et avec le retour de Jésus-Christ, il y aura les récompenses, nos récompenses. En fonction de ce que nous avons fait avec les mines que Dieu nous a données, nous aurons le gouvernement de 10 villes, de 5 villes, nous aurons des postes, nous aurons des responsabilités, et le Christ sera heureux de revenir. De nous donner notre récompense et d'épouser sa fiancée. Le Christ a dit, je reviendrai, et c'est une certitude. Dieu ne peut pas mentir. Nous pouvons vivre avec cet espoir, avec cette certitude. Nous pouvons nous réjouir. C'est sûr, nous savons que le Christ reviendra. Il reviendra parce qu'il l'a promis. Et Dieu tient toutes ses promesses.